Je voudrais d'abord dire le plaisir d'être parmi vous. Je connais beaucoup de gens et beaucoup d'autres que j'aimerais connaître également avec grand plaisir. Je suis d'autant plus content que le sujet est un sujet à la fois intéressant et actuel. Et en fait, les organisateurs ont programmé religiosité populaire. Ils ont bien fait de mettre entre guillemets et sainteté en Tunisie, mais moi j'aurais aimé parler d'autres sujets beaucoup plus actuels, c'est vrai, hein, dont
Si tu veux, c'était
on a
terrible.
commencé. Non, mais je parlerai volontiers de la religiosité et de la sainteté, mais j'aimerais parler de sujets plus actuels, comme la visite du pape en Turquie, qui est une visite importante par les interférences entre le politique et le religieux. Et j'aurais également aimé parler de ce qu'on appelle les voiles islamiques. Et de toute façon, la question des voiles islamiques est une question également que l'on retrouve en Turquie. Et je ne sais pas si vous avez vu les journaux, dans les manifestations contre le pape, il y a des photos vraiment très intéressantes. Merci. Je vais faire circuler cette photo où l'on voit des femmes voilées avec des voiles différents et assez particuliers, et au milieu de drapeaux rouges, les drapeaux de la Turquie. Et il y a un symbolisme vraiment très intéressant à étudier, de même qu'à l'intérieur, il y a une affiche du pape en croisée, fabriquée par les islamistes turcs, enfin, un groupe islamiste turc. Je vais faire donc circuler cela. Ça ne nous empêchera pas de parler de la sainteté, de la religiosité qu'on en retrouve justement dans la visite du pape, parce que le pape étant lui-même un personnage saint, et il y a une religiosité qui se développe aussi bien dans les pays d'Europe occidentale et même dans le monde anglo-saxon, en Amérique, et également une religiosité qui se développe dans les pays musulmans assez intéressante à étudier. Et je pense particulièrement à un article récent de Geertz, Clifford Geertz. Peut-être que c'est son dernier article, ceux qui le connaissent bien pourraient nous le dire. C'est un article qui était destiné à un colloque organisé par le CADIS, à l'École des hautes études en sciences sociales, en mars ou bien en avril dernier. Clifford Geertz n'est pas venu, probablement parce qu'il était malade. Probablement, je ne suis pas informé, je ne suis pas sûr, mais le plus important, c'est le texte en fin de compte. Et c'est un texte sur la religion que l'on trouve facilement en consultant, en allant sur Internet. Vous mettez Clifford Geertz religion en français et vous l'avez le texte. Il a été publié par le journal Le Monde. Il était destiné au colloque de l'école d'hautes études, du CADIS, du centre. C'est un centre à l'école d'hautes études où il y a plusieurs sociologues qui sont connus, dont Vivorca, par exemple. Je crois que c'est Vivorca qui est le directeur. Et Vivorca est l'un des sociologues qui essaie de penser l'actuel, le monde actuel. Et l'anthropologie a tort, à mon avis, de ne pas penser l'actuel et de ne pas penser le présent, même si certains anthropologues le font. Je pense en France à Marc Augé, mais il y a plus que cela, c'est aux États-Unis. Un anthropologue comme Talal Assad, par exemple, qui n'est pas connu, il n'est pas du tout traduit en français, et qui pense vraiment le monde actuel, dans l'affaire du voile, sur laquelle il a écrit un article très intéressant en déplaçant la problématique. Et un article fabuleux, très difficile à lire sur le voile. Il a certainement mis plusieurs années pour réfléchir, et en fait, quand on lit l'article de Talal Assad, qui est un anthropologue américain d'origine, je crois, juive irakienne, Abdelkader Zghal le connaît bien, mais quand même avec un prénom assez particulier, puisque sa mère est, semble-t-il, saoudienne. Donc c'est tout un mélange, et ce mélange donne une chance, qui n'est pas toujours sûre, de pouvoir se distancier avec ce qui se passe, de pouvoir prendre distance. Et les États-Unis, à mon avis, c'est un point de vue personnel qu'on pourrait discuter, les États-Unis est un pays où l'on peut prendre distance le monde universitaire, où l'on peut prendre distance avec ce qui se passe dans le monde, quand on est chercheur. Par les moyens qu'elle offre, par le multiculturalisme qui est discuté, par la distanciation avec les dogmes. Et l'apport de Talal Asad pour la question du voile, c'est de déplacer la question. Il n'étudie plus le voile, mais il étudie la laïcité en tant que dogme. Et il montre dans son article que les intellectuels en France, quelle que soit leur tendance, et en particulier les intellectuels de gauche, adoptent l'attitude de l'État jacobin. Et son article est fabuleux sur ce plan-là, parce que au niveau méthodologique, justement. Et alors, ce qui est intéressant quand nous pensons le voile, mais aussi le voyage du pape, le dialogue interreligieux, et tout est à mettre entre guillemets, hein, bon, sauf le nom du pape, bien sûr. Dialogue interreligieux est à mettre entre guillemets, voile islamique est à mettre entre guillemets, c'est-à-dire, il faudrait qu'on se distancie avec les mots utilisés par les médias et les mots en vogue, n'est-ce pas? Quand on les étudie, ce qui est intéressant, c'est la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est la méthodologie. Plus que les résultats auxquels on parvient. C'est la façon de traiter la question. Et alors, une des façons de traiter les voiles me semble être celle d'un autre penseur allemand qui est intéressant. C'est très intéressant pour penser l'espace public, c'est celle de Habermas. Et alors, voilà ce que dit, j'en parlais un peu avec Anton, dans une interview que j'ai lue sur un journal espagnol, La Vanguardia, Habermas dit du voile, le voile islamique, il ne dit pas voile islamique, il dit le voile est le symbole légitime d'une culture dominée par la religion. Le voile est le symbole légitime d'une culture dominée par, je crois que cette affirmation, dominée par la religion, je crois que cette affirmation, cette thèse en fin de compte, ou hypothèse si l'on veut, est intéressante, d'autant plus qu'elle est discutable. Et alors je vais revenir sur le texte de Geertz, où le titre du texte, je crois, mais j'ai un peu oublié, c'est « La religion et le futur ». Et l'avenir, le texte s'appelle comme ça, la religion et l'avenir. Et Clifford Geertz dit que la religion, le phénomène religieux, n'obéit plus à la même n'a plus la même configuration que celle qui existait du temps de Durkheim, et qu'elle a changé. La religion n'est plus une institution. La religion n'est plus une tradition, c'est devenu, et sa proportion est intéressante, c'est devenu un réseau diffus. Un réseau diffus, et elle doit être étudiée en tant que telle. Et il va encore plus loin, il dit, nous n'avons plus à attendre des années pour étudier la religion comme réseau diffus, nous devons l'étudier aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a plus cette accumulation historique qui permet... Parce que ça change, elle est en train de changer tout le temps et elle est à étudier en tant que réseau diffus. Elle n'a plus de centre, voilà, la religion n'a plus de centre. Elle est à étudier en tant que réseau diffus. Et cette proposition est également intéressante, même si, moi je trouve discutable son idée que, quand il parle de l'islam, il dit il n'y a plus de tradition. Je pense qu'il y a une tradition et qu'il y a des traditions. Et que les courants politiques, comme le mouvement islamiste, même si le mouvement islamiste est pluriel, utilisent des traditions, exploitent des traditions. Et sur la question du voile, par exemple, les mouvements islamistes, qui a réussi à diffuser la thèse du voile, n'est-ce pas, utilisent la tradition, une tradition particulière à l'intérieur de l'islam, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on appelle la sourate du voile, qui est une invention, hein, la sourate du voile, elle ne s'appelle pas la sourate du voile, on l'a appelée la sourate du voile. Les fuqaha l'ont appelée la sourate du voile. Est discutable. C'est-à-dire que le mot voile, hijab, le mot hijab, n'apparaît qu'à propos d'un voile qu'a tendu le prophète entre lui et un homme pour que l'homme ne voit pas ses épouses. Dans un contexte où on avait reproché au prophète de l'islam de laisser les musulmans entrer dans sa demeure et être en contact avec ses épouses. Lui, il était gêné par cette présence, il est sorti, et c'est là où il a été rejoint par un compagnon qui lui a dit qu'il n'est pas normal que cela se passe chez vous. Et la tradition pense que le prophète a été offensé. Et c'est dans ce contexte que vient la sourate du Hijab. Alors, on a plusieurs lectures. Une lecture qui dit que le voile est obligatoire en islam et que c'est un commandement divin. C'est une lecture qui est tardive, qui commence vers le 12e, 13e siècle, si je ne me trompe pas, et qui va s'affirmer sur 4, 5 siècles. Et l'on arrive au 19e. Au 19e, la lecture dominante des penseurs comme Abdou, des réformateurs de l'islam, est contre le voile. Et cette lecture continue jusqu'aux années 20. Avec l'apparition du mouvement des frères musulmans, qui au début ne s'intéresse pas à la question féminine, mais qui par la suite crée une section féminine, se développe la thèse du voile qui va revenir en force après la révolution islamique. Au milieu des années 70 déjà, elle revient en force. Et c'est un voile qui ressemble plus au tchador iranien, mais qui n'est pas obligatoirement noir. Il est soit noir, soit blanc, qui se développe dans le monde musulman à petite échelle, à échelle réduite, chez certaines femmes, pour la plupart instruites, en réaction contre la modernisation autoritaire, notamment dans des pays comme la Turquie, qui ont connu des expériences de modernisation réelle mais autoritaire, la Turquie, la Tunisie, l'Égypte, n'est-ce pas, se développe ce phénomène-là. Puis, nous assistons aujourd'hui à ce que l'on pourrait appeler les nouveaux voiles, qui sont différents du tchador ou bien des tenues apparentées au tchador des années 70. Des nouveaux voiles qui apparaissent dans les années 90, fin des années 90, début du 21e siècle, notamment après le 11 septembre. Ça se diffuse de manière assez large en relation avec les conflits régionaux et les pays où les femmes sont les plus voilées sont l'Irak et la Palestine, dans des contextes de guerre civile, de violence extrême, où la femme est l'objet de vexations et l'objet d'enjeux et de raptes, d'enlèvements, de convoitises, de viols, de violences donc. Et ça se diffuse aussi dans les autres pays musulmans. Ce sont de nouveaux voiles qui visent uniquement le visage et plus particulièrement les cheveux. Ce que cachent ces voiles, ce sont les cheveux. Et en cela, ces voiles-là, à mon avis, s'apparentent aux voiles des autres religions. Je parle particulièrement du judaïsme et du christianisme qui imposent le voile. N'est-ce pas ? Et la question du voile renvoie nécessairement à la culture hébraïque et à la culture chrétienne. C'est pourquoi ils doivent être étudiés, non pas d'une manière comparative, puisque le voile n'est plus de mise dans les sociétés à fondement culturel et chrétien et juif, mais avec la culture ambiante, y compris chez les intellectuels laïcs, n'est-ce pas ? Et le rapport avec leur tradition culturelle. Parce que ce qui est frappant, c'est et c'est ce qui se passe aussi dans les pays musulmans, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un déni des traditions culturelles, qu'il y a un retour en force, qu'il y a une lutte violente contre les trucs. C'est ce qui fait que beaucoup, par exemple, d'intellectuels de gauche, en Égypte et en Turquie, sont passés aussi au camp islamiste. N'est-ce pas ? Et c'est intéressant d'étudier aussi les traditions familiales, et les fondements culturels, les traditions culturelles chez les intellectuels. Alors je reviens à la question du voile. Des voiles, et ce ne sont pas des voiles, puisqu'ils ne cachent pas. Au contraire, ils montrent, n'est-ce pas? Donc ce ne sont plus des voiles. Ils cachent les cheveux, le cou, les oreilles, ils cachent la partie supérieure de la tête. Et donc, à mon avis, ils constituent des couvre-chefs, pas des voiles. Et la question des couvre-chefs dans les pays musulmans masculins, les couvre-chefs masculins, était objet de débat jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans la deuxième moitié du 19e, première moitié du 21e siècle, sur un siècle, c'était l'objet de débat. Et il était honteux pour un homme de sortir la tête découverte, n'est-ce pas? Et pour les femmes également, la question se posait des voiles traditionnelles à mettre entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs types de voiles traditionnelles. La jellaba marocaine, par exemple, n'était pas un voile traditionnel de femme, c'était un manteau d'homme plutôt, qui est devenu, dans un contexte particulier, je crois que c'est l'entre-deux-guerres, qui est devenu une tenue de femme, et qui est maintenant concurrencée, et sans être en concurrence nécessairement, accompagnant les nouveaux voiles, n'est-ce pas? Elle ne fait plus fonction de voile, elle fait fonction de tenue, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce changement-là qui est intéressant, un changement esthétique, vestimentaire, esthétique, sémiologique et politique. Et alors, ce qui est intéressant, donc, à mon avis, dans la question des voiles, c'est de les étudier en rapport avec l'espace public, parce qu'ils n'existent que dans l'espace public, ils ne constituent pas des tenues privées, on ne les porte pas à la maison, on les porte à l'extérieur de la maison. Et ce qui est intéressant, c'est de les étudier comme langage. Et elle nous renvoie à plusieurs types de langage, de codes de langage. Parmi ces langages, on pourrait justement retenir celui de la transition entre la maison familiale et le domaine public. Les voiles permettent à la femme de sortir. Ils ne sont pas nécessairement, comme le pense, une vision étroite des choses. Ils ne sont pas nécessairement et toujours un asservissement de la femme. Elles permettent à des femmes de sortir, des femmes qui ne seraient pas sorties sans voile, et les voiles permettent aux femmes de sortir incognito et même de gagner des espaces qui étaient l'apanage exclusif des hommes dans l'espace public. Et une femme voilée peut sortir à minuit, peut se permettre des libertés que ne se permettent pas les femmes dévoilées. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi un autre langage du voile, c'est la femme qui dit, et beaucoup de femmes ne sont pas nécessairement pieuses ni religieuses, qui dit, et c'est un autre langage du voile, je ne suis pas un objet sexuel, je suis un individu, comme tous les autres, comme tous les hommes, je suis égal à tout le monde, je n'ai pas à être regardé comme objet sexuel. Ceci dit, le voile peut être très érotique, hein, il peut attirer beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs la peinture occidentale au 19e et au 20e est très intéressante, hein, dans l'invention, dans l'imaginaire du voile et du harem, n'est-ce pas? Elle est intéressante, et c'est ce qui serait intéressant, c'est d'étudier l'imaginaire occidental à propos du voile et aussi l'imaginaire musulman à propos du voile, bien entendu. Autre chose sur les voiles, c'est que c'est un signe de protestation politique et c'est un langage politique par excellence, n'est-ce pas? Et dans les pays où le voile est interdit, c'est-à-dire, il y a trois pays où le voile est interdit à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. D'abord, la Turquie, où Kemal Atatürk a interdit dès le milieu des années 20, en 25, le port du fez et le port du voile. C'est pas ces voiles-là, mais les anciens voiles, étant donné que la Turquie est une public, jusqu'à aujourd'hui, une public laïque, où l'institution de l'État est gardée par les militaires continuent à interdire le voile dans les institutions publiques, pas dans l'espace public. Dans les institutions de l'État, avec une loi donc, qui date de Kemal Atatürk, mais renouvelée par plusieurs circulaires et peut-être même des lois, mais je n'ai pas une connaissance très précise. J'ai même demandé à des amis turcs qui connaissent, qui étudient l'islam, et ils m'ont dit qu'il y a des tas de lois. Donc c'est un imbroglio juridique, les lois en Turquie. Mais la situation de la Turquie est très intéressante. Alors, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui interdit le voile depuis 1981, c'est la Tunisie. Par une circulaire, pas par une loi. Circulaire considérée par les islamistes comme étant anticonstitutionnelle. Et cette circulaire interdit le voile dans les écoles, mais aussi dans les administrations et donc les institutions de l'État. Et cette circulaire est réactivée, et elle a été réactivée pendant le mois de Ramadan dernier, et les islamistes en ont fait un combat. N'est-ce pas ? C'est un enjeu entre l'État sécularisé, et non pas laïque, sécularisé, et les islamistes qui prônent une société islamique, entre guillemets. Alors, troisième pays où le voile est interdit, c'est la France. Où le voile est interdit dans les écoles, on ne le dit pas assez, par exemple dans les médias. Et je vais venir aux médias, si j'ai un peu de temps, aux nouveaux médias, comme Al Jazeera, les nouvelles chaînes, et elles vont être de plus en plus nombreuses, et elles vont concurrencer, et elles sont en train de concurrencer les chaînes du monde occidental, sur le terrain du Moyen-Orient, sur le terrain du monde musulman. Le voile est interdit dans les écoles publiques, et pas à l'université, par exemple. Alors qu'en Tunisie, par exemple, il est interdit à l'université, mais nous avons des étudiantes voilées. Et ça, c'est intéressant. Et il est interdit dans les banques, et il y a des fonctionnaires qui sont voilés. C'est-à-dire que l'interdiction n'empêche pas l'existence du phénomène. Au contraire, hier, j'étais dans une poste dans le quartier où j'habite, et les femmes n'étaient pas voilées. Elles sont devenues voilées après la campagne contre le voile. Et donc l'interdiction pourrait également favoriser la diffusion du phénomène. N'est-ce pas ? Surtout de symboles comme le voile. Je reviens donc aux nouveaux médias. Les nouveaux médias, particulièrement la chaîne Al Jazeera, a joué un grand rôle. Le directeur l'a dit dans une interview, nous avons rempli un vide. Effectivement, il y avait un vide dû à deux phénomènes. D'abord, la censure exercée par les États dans le monde arabe et musulman, qui ne laisse pas d'espace libre pour le débat public. Alors ils ont exploité cela pour donner la parole aux opposants, et en particulier aux opposants islamistes. Parce que Al Jazeera favorise les opposants islamistes. Elle a une tendance, à mon avis, elle n'est pas islamiste, mais elle a une tendance proche des islamistes et des nationalistes arabes, étant donné qu'elle est, disons, de sensibilité populiste. Et aussi, il y a un problème d'audimat, hein, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui réclame 40 millions de téléspectateurs, et donc elle favorise également ce que l'on pourrait appeler le sens commun politique. Deuxième chose, c'est qu'il y a un vide laissé par les chaînes occidentales qui ne s'intéressent que peu aux affaires du monde extérieur. Et si elle s'intéresse, c'est à la manière de CNN ou bien de Fox News, dans une optique considérée par les concernés comme leur étant hostile. N'est-ce pas ? Et j'en viens maintenant au pape. Le titre s'appelle « Arrivée du pape en terre hostile », le titre d'un journal aussi sérieux comme Le Monde, d'un spécialiste aussi sérieux comme Tank, qui connaît les religions, et dit « Voyage du pape en terre hostile ». Or, quand on lit l'article, on se rend compte que 25 000 ont manifesté contre le pape. C'est une protestation réduite, très réduite en Turquie, parce que, d'abord, le parti islamiste, qui n'est plus islamiste, d'Erdogan, le AKP, ne manifeste pas. Ce qui est très important, c'est le parti qui a la majorité en Turquie. Les groupes qui manifestent sont des groupes minoritaires, et l'opinion publique, c'est dit par le monde lui-même, elle est partagée entre indifférence, inquiétude et protestation, et la protestation est minime, n'est-ce pas ? Et le voyage du pape lui-même, on en parlait, il y a un aspect provocation, il y a un aspect également rapprochement. C'est un voyage assez ambivalent, comme le sont les phénomènes comme dialogue interreligieux. Car qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux? Par exemple, pour les musulmans, que je connais un peu, dialoguer, c'est se rapprocher de l'islam et à la limite, s'y convertir. C'est-à-dire qu'il n'est... Et je pense que c'est le point de vue de tous les religieux, n'est-ce pas? Dialoguer, c'est influencer l'autre, c'est le ramener à des positions proches. Bien sûr qu'après Vatican II, après les évolutions qui ont eu lieu dans le monde occidental, les religieux ont plus de distance avec ce phénomène parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible, alors que les islamistes rêvent encore de convertir la reine Elisabeth d'Angleterre. Perdent pas espoir, l'espoir fait vivre, et qu'ils pensent aussi que l'islam va gagner l'Europe. C'est ce qui se passe chez les islamistes en Angleterre, ils pensent que l'Angleterre va être islamique dans les prochaines années. Et en fait, quand on parle avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un vide chez ces gens-là, et qu'ils ont besoin de valeurs, que nous pouvons leur donner les valeurs. Et ils n'ont pas tort sur la première proposition, n'est-ce pas, sur la proposition primaire, pas sur la secondaire. Et ce qu'ils ne disent pas, et c'est ça ce qui est intéressant pour l'anthropologie, peut-être que je vais finir par là, si, non, c'est bon, bien. Oh, j'ai encore un peu de temps. Si j'ai un peu beaucoup de temps, je vais revenir sur le pape. Hein. Oui, sur Quirón aussi. Alors, ce qui est intéressant... Ce qu'ils ne disent pas, ce que les islamistes ne disent pas, et ce qui est intéressant à étudier chez eux, ce sont, contrairement aux apparences, les identités indécises qu'ils vivent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils prennent. C'est sur fond d'identité individuelle indécise qu'ils développent des discours identitaires, communautaires et monolithiques. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est difficile également. C'est difficile... au niveau de l'enquête. Mais ils vivent, ils sont partagés, ils sont déchirés, notamment quand ils vivent en Europe ou en Amérique. Ils sont partagés entre un individualisme qui les travaille de l'intérieur et dans leur vie quotidienne, et une référence à la Umma islamique au niveau de l'imaginaire et qui n'existe pas au niveau du réel. Enfin, au niveau de l'imaginaire, il y a ce concept de la Umma islamique, c'est-à-dire de l'appartenance à une communauté unie, indivisible et harmonieuse, qui est un concept tardif en islam, hein, celui de la Umma islamique, qui est ancien au niveau de l'imaginaire, hein, qui est ancien, qui est fondamentalement hébraïque, n'est-ce pas? Celle d'une communauté croyante, n'est-ce pas? Et l'islam a beaucoup pris dans le judaïsme. Sur ce plan-là et sur d'autres plans. Au niveau de l'imaginaire, ils vivent cela comme étant un mythe régénérateur, un mythe qui permet la symbiose. Et au niveau quotidien, ils sont déchirés entre l'individualisme et un phénomène aussi très important lié à l'immigration, l'absence de reconnaissance. Ils ne sont pas reconnus en tant que tel. Ils sont niés dans une méconnaissance de ce qu'ils sont et un refus voire une discrimination au niveau de l'emploi, au niveau du faciès, du comportement quotidien. Et c'est cet ensemble-là qui crée, à mon avis, des identités indécises au niveau des individus musulmans, notamment dans l'immigration, mais également dans leur pays. Dans leur pays, ils vivent ces identités indécises par l'émancipation de la femme, n'est-ce pas? J'ai vu récemment une émission de télévision libanaise consacrée au célibat. Vous savez que le phénomène du célibat se développe d'une manière vertigineuse dans les pays arabes et musulmans, y compris dans les pays du Golfe et en Arabie Saoudite. Pour vous donner un chiffre cité par cette émission, sur 4,5 millions de jeunes femmes ayant plus de 20 ans, en Arabie Saoudite, 1,5 million sont célibataires et risquent de le rester, si ce n'est pas plus. Et en Tunisie, dans un pays comme la Tunisie, que les chaînes, que la chaîne Al Jazeera attaque, non pas pour sa politique contre le voile, mais pour sa modernité également, pour ses, son code de statut personnel favorable à une égalité entre les deux sexes, n'est-ce pas, dans un pays comme la Tunisie, plus de la moitié des filles, d'abord l'âge de moyen au mariage a reculé à 32 ans, il est presque l'équivalent des pays de la rive sud de la Méditerranée, et de ce que vivaient l'Espagne, l'Italie dans les années 70, à mon avis, n'est-ce pas ? Il y a un décalage historique. Donc, le nombre de jeunes filles célibataires est en train d'augmenter, et le risque de rester célibataire toute la vie est réel, avec les angoisses que ça crée dans une société qui reste en partie attachée aux valeurs de la famille, aux valeurs qui n'a laquelle famille a changé, totalement changé. Hein. Elle n'est plus ce qu'elle était, ça c'est sûr. Nous n'avons pas une bonne connaissance de ce que c'est que la famille. Ça ne veut pas dire qu'elle a éclaté totalement. Par exemple, le rôle des grands-parents est devenu, je pense aussi que dans les sociétés européennes, ce phénomène joue, est devenu encore plus important, puisque le couple ne peut plus prendre en charge tout seul par la logique du travail les enfants, et que les... grands-parents sont en mesure physiquement, matériellement de prendre en charge les enfants, et aussi le vide qui se crée à la fin du troisième âge, qui n'est plus un troisième âge puisqu'on peut aller au quatrième âge maintenant, et donc la configuration de l'individu, de la famille a beaucoup changé, et donc tous ces phénomènes-là créent ce que j'ai appelé les identités individuelles indécises. Et c'est cela qui reste important à étudier. Donc étudier le voile, c'est aussi étudier d'autres phénomènes. C'est plutôt étudier d'autres phénomènes comme le célibat, comme les attentes pour le mariage. Et alors dans cette émission dont je parlais, on a fait une enquête au Liban pour demander aux femmes est-ce qu'elles souhaiteraient les femmes mariées se marier avec le même homme si c'était à refaire. Les réponses étaient quand même intéressantes. 80% ont dit non et 20% ont dit qu'elles préféreraient ne pas se marier du tout. C'est quand même intéressant, c'est une évolution nouvelle ça. C'est un phénomène nouveau. Et en Arabie Saoudite, alors pour résoudre le problème du célibat, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les cheikhs, les hommes religieux? Ils ont trouvé une formule qui est maintenant en vogue, qui s'appelle le mariage messiah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. C'est une formule, c'est une invention géniale. Hein, elle consiste en quoi? À permettre aux hommes mariés de se marier avec une célibataire pour résoudre le problème de la célibataire sans passer la nuit avec elle. C'est un mariage diurne qui se fait, qui marche, hein. Qui marche, qui est défendu par les hommes religieux. Mais, et c'est ça le phénomène nouveau, c'est que la plupart des femmes, et notamment des célibataires, hein, le refusent. La plupart des femmes interviewées, du moins, qui sont voilées hein, en Arabie Saoudite, puisque le voile est imposé. Il est obligatoire par les autorités politiques aussi, parce que c'est un problème d'ordre public. Il est refusé. Et quand même, il y a des femmes qui entre dans ce mariage messial, que l'on pourrait traduire par, peut-être, c'est un mot difficile à traduire, un mariage en devenir. Peut-être, hein, c'est une formule. En devenir, pas pour le marié, pour la célibataire, c'est un mariage en devenir. C'est-à-dire qu'il pourrait devenir un mariage, mais il n'est pas un mariage. Hein. Et ce qui est grave dans cette forme de mariage, c'est qu'il ne donne aucun droit. Il ne donne aucun droit à la femme, c'est-à-dire qu'elle peut, du jour au lendemain, se retrouver sans rien, alors qu'elle aurait fait sa vie avec cet homme qui a une autre famille, n'est-ce pas? Et surtout que ses enfants, si elle a des enfants, ils n'auront absolument rien, même pas le droit à l'héritage, hein, sauf si le père décide de leur attribuer une partie. Alors, je voudrais revenir sur le voyage du pape, hein. Le voyage du pape est sur la sainteté et la religion populaire et surtout sur les rapports entre le religieux et le politique, qui sont des rapports complexes. Et que nous avons jusqu'ici dans une tradition sociologique et anthropologique opposant le sacré et le profane, conçus comme deux domaines différents. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de ne plus concevoir les phénomènes dans le cadre de casiers, de domaines séparés, de sphères séparées, qu'il faudrait les penser à la fois dans leur interférence, mais aussi comme étant des phénomènes qui ne peuvent pas être limités à un domaine. C'est-à-dire que le religieux n'est pas que dans le religieux. Il est aussi ailleurs. Et ça nous renvoie à ce que c'est que la religion. Et je pense quelque part que la religion reste pour les gens qui ont été comme nous, je ne sais pas, comme la plupart de nous, élevés dans une tradition, entre guillemets, laïque, sécularisée, la religion reste la boîte noire. La boîte noire. Elle contient encore des secrets que nous n'arrivons pas à comprendre. Comment elle fonctionne exactement, n'est-ce pas? Et j'étais frappé, par exemple, par le discours des gens qui veulent aller en pèlerinage à la Mecque. Pas seulement en pèlerinage, qui veulent faire la Umrah. Vous savez, la Umrah, ce n'est pas le pèlerinage officiel, c'est la visite au lieu saint que l'on peut effectuer sans avoir le titre de pèlerin, mais qui quand même rapproche beaucoup du pèlerinage. J'étais frappé par le discours qu'ils tiennent sur la Umrah et sur les lieux saints. C'est un discours d'enchantement que je ne peux pas imaginer. Et donc, il y a d'autres modes de fonctionnement. Il y a d'autres modes de... Il y a notre imaginaire qu'il faudrait comprendre, n'est-ce pas? Qui n'est pas l'imaginaire, par exemple, de ma mère ou de ma grand-mère, qui, elles, ont visité les lieux saints. Elles ne tiennent pas le même discours sur les lieux saints. Et par exemple, et là, peut-être je risque de choquer quelques musulmans, la place qu'acquiert le prophète Mohammed au niveau de l'islam est une place remarquable et, à mon avis, nouvelle, qui est en rapport avec la place de Jésus. Et je suis frappé par le nombre de fois que les musulmans citent Mohammed, qui est, à mon avis, supérieur au nombre de fois où ils citent Dieu. C'est-à-dire que Mohammed acquiert une place très très importante dans le discours des imams, dans le discours des croyants eux-mêmes. Et des caricatures comme celles, les caricatures faites dans un pays aussi tolérant que le Danemark, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a longtemps, qui est remarquable par son pluralisme, par sa tolérance, des caricatures ont aiguisé un sens religieux très fort chez les musulmans. Et la visite du pape également aiguise encore, et surtout son discours de ratisbonne aiguise. Et donc nous sommes là dans un siècle, dans un monde où il y a des interconnexions, où les paroles et les symboles acquièrent une valeur très importante, où ce qui se fait dans une partie a des conséquences sur l'autre, nécessairement. Et je pense que la montée du radicalisme, et ce n'est plus l'islamisme, du djihadisme plutôt, n'est-ce pas, le phénomène nouveau qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un jour où on ne lit pas le journal et on ne découvre pas la découverte d'un réseau armé qui voudrait mener des actions armées, montre qu'il y a réellement une crise et montre qu'il y a réellement un malentendu historique et montre que la lutte est devenue intense entre les civilisations. Et ce que disait Huntington dans son analyse erronée est en train de se concrétiser quelque part. Et donc il y a une orchestration. Une orchestration, il y a une manipulation de part et d'autre en vue d'une confrontation. Alors que jusque-là, les rapprochements étaient et demeurent, à mon avis, très importants. Et les ressemblances sont beaucoup plus fortes que les différences. Mais on est en train de creuser les différences dans une quête identitaire effrénée et meurtrière. C'est ça ce qui est nouveau. Et du côté, à mon avis, du côté musulman, il y a tout un travail à mener pour une remise en cause de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal que cette lecture fermée, orthodoxe, prévale sur d'autres lectures qui ont jusque-là dominé. Et que, et ça c'est important à mon avis, et que les médias occidentaux ne répercutent que cette lecture-là. Et qu'ils ne disent absolument rien sur les laïcs en Turquie elle-même. En Turquie, les laïcs sont très nombreux, les gens qui défendent les Lumières, qui sont très proches de l'Europe. Et le débat sur l'entrée de la Turquie en Europe est un débat qui est intéressant. Parce que le refus que la Turquie entre dans l'Union européenne est interprété qui est un refus légitime, à mon avis, sur plusieurs questions, sur la question kurde, sur la question des droits de l'homme, sur la torture, n'est-ce pas, sur de nombreux points, il y a sur le code pénal turc lui-même, il y a de nombreux points qui sont... Mais il est, de l'autre côté, il est perçu comme étant un barrage contre l'islam. Et refuser l'entrée de la Turquie n'aide pas la Turquie à se moderniser, au contraire. C'est pourquoi, à mon avis, il faudrait à la fois dépassionner le débat et également le traiter en termes rationnels. Alors que, par exemple, la Roumanie accède à l'Union européenne comme si la Roumanie n'avait aucun problème, qu'elle a liquidé son passé autoritaire d'un seul coup. C'est quand même frappant. Le cas de la Bulgarie également. Il y a des problèmes réels, hein, des droits de l'homme dans ces pays-là, réels. Le cas de la Grèce, qui continue de mentionner sur la carte d'identité la religion. Le cas de plusieurs pays où la question n'est pas posée, n'est-ce pas ? Mais par exemple, dès qu'un musulman est religieux, les médias montent l'affaire. Dès qu'il y a religion, alors que lorsque le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui était un catholique pratiquant, on n'en parle pas. Dès qu'il y a... Il y a là vraiment deux poids, deux mesures, sans parler des deux poids et deux mesures et d'une politique désastreuse au Moyen-Orient, réellement désastreuse. À aucun moment de l'histoire on est arrivé à ce point-là. La situation en Irak est catastrophique. En Palestine, elle se rapproche de cela, même s'il y a un espoir de dialogue, mais avec un espoir mince à mon avis. Et à mon avis, tout est à repenser, non sur le plan politique seulement, mais sur le plan conceptuel. Il faudrait qu'on repense ces catégories-là, le religieux, la religion, la religiosité, qui sont déjà trois phénomènes différents, et surtout ne plus les séparer du politique et penser que le politique est un domaine autonome et que le profane se distingue du sacré. Et que la religion, et ça c'est une idée aussi qui a démontré son insuffisance méthodologique, historique, que la religion est une affaire privée. Qu'est-ce que cela veut dire, la religion est une affaire privée? Pratiquement, cela ne veut absolument rien dire, parce que la religion n'a de sens que dans l'espace public. N'est-ce pas? Le truc du fort intérieur... Et la religion doit se réduire dans une affaire privée. Au contraire, et c'est la thèse de Casanova, José Casanova, c'est que ça aiguise au contraire le fondamentalisme, cela. N'est-ce pas ? Ça développe le fondamentalisme, de vouloir réduire la religion à une affaire privée entre l'homme et son Dieu. N'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que la religion doit être portée au pouvoir. Non, c'est un autre discours, cela. Mais cette démarche-là, qui tend à exclure la religion de la sphère publique, et non pas à la rendre une religion civile, entre guillemets, hein, est une démarche qui pourrait renforcer, d'autant plus qu'elle est méthodologiquement et historiquement fausse. La religion est une affaire publique par excellence. Le voile est un symbole public par excellence. Il n'existe pas sans l'espace public. Et le politique est certes partout, n'est-ce pas, mais il n'est pas quelque chose qui enrobe le religieux seulement. N'est-ce pas? Il est dans le religieux. Et à mon avis, tous ces phénomènes-là sont à repenser. Voilà ce que je voulais dire, juste pour le débat. Hein, peut-être que j'ai été... parfois affirmatif, mais j'ai toujours eu une identité indécise, hein, et j'espère la garder en tant que telle. Et c'est le propre de la recherche d'être indécis, d'avancer un petit pas. Et ce sont des questions difficiles, réellement difficiles. Et par exemple, le texte de Talal Assad sur le voile, sur la laïcité, pas sur le voile, hein, est un texte très difficile à lire. Et je pense que son intérêt vient de là, parce qu'il est il rejoint l'affirmation de Geertz que la religion est devenue est un phénomène diffus, parce que nous sommes en présence de phénomènes liquides, mobiles, liquides, qui échappent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étudier. On peut les étudier, mais en tenant compte de la complexité et en tenant compte des changements perpétuels. Et par exemple, sur le voile, ce qui est intéressant, et c'est le mot de la fin, c'est les débats sur le voile, pas le voile. Quelles sont les passions qu'on met dans les débats? Et généralement, ce sont les dévoilés, femmes et hommes dans leur imaginaire, qui mettent autant de passions, pour ne pas dire plus de passions, que les voilés. N'est-ce pas? C'est donc la guerre idéologique qui est déclenchée, qui est importante. Et sur le plan méthodologique, c'est étudier, donc, et c'est ce que fait Talal Assad, étudier les passions. N'est-ce pas? Alors que jusque-là, on croyait que les phénomènes sociaux, dans une approche positiviste, devaient être séparés des passions pour être étudiés scientifiquement. N'est-ce pas? Ce sont maintenant les émotions, les passions qui sont intégrées dans l'approche des phénomènes. Voilà, je vous remercie.